La douleur est la première cause de consultation en médecine générale. Le marché mondial de la douleur en 2010 représentait 25 milliards d'euros. Celui des douleurs neuropathiques, qui affectent entre 6 et 8% de la population des pays développés, est estimé, lui, à 4 milliards d'euros. Et les antalgiques demeurent le premier marché pharmaceutique. Ces informations, je les ai extraites du livre de mon invité « La douleur n'est pas une fatalité », publié aux éditions Quae. Bonjour Bernard Calvino.
Bonjour Guylaine.
Alors Bernard Calvino, vous avez écrit ce livre pas tout seul, avec Odile Robert pour les éditions Quae. Vous-même Bernard, vous êtes professeur d'université aujourd'hui honoraire en neurophysiologie et vous avez orienté vos recherches mais aussi votre travail clinique sur la douleur. En revanche, Odile Robert n'est pas à nos côtés, pouvez-vous nous la présenter ?
Alors, Odile Robert est une journaliste, mais qui ne veut pas qu'on l'appelle ainsi. C'est une personne qui a beaucoup écrit en freelance. Elle a une formation à l'origine, elle a une maîtrise de biochimie, donc elle a quand même une culture scientifique biologique importante. Et elle s'est orientée vers l'écriture pour tout un tas d'organismes. Elle a fait des plaquettes pour l'Institut Curie, pour l'INRA, pour l'INSERM, etc. C'est un esprit très ouvert et très curieux et qui n'a pas voulu se focaliser dans une discipline scientifique comme le font les chercheurs. Et c'est quelqu'un qui a un esprit très ouvert et très libre, ce qui permet que nous ayons pu travailler et collaborer alors qu'au départ, elle ne connaissait pas du tout le monde de la douleur et qu'elle ne connaissait pas la douleur d'un point de vue, je dirais, clinique ou scientifique. Et elle a une liberté d'écriture qu'on retrouve dans le livre, entre autres, par exemple, son idée pour aborder les différentes formes de douleur, d'inventer des personnages, des patients, à partir de cas cliniques que je lui avais fournis dans la littérature. Et je trouve que ça donne un livre très facile d'accès. Mais bon, ça, c'est le public qui nous le dira.
C'est aussi un avis que je partage sur en effet ce livre. La douleur n'est pas une fatalité, mais nous allons dérouler tranquillement. Alors peut-être on pourrait commencer tout simplement à essayer d'exprimer ce qu'est la douleur. Qu'est-ce que ça représente ? On sait ce que c'est qu'avoir mal, mais pour vous, Bernard, qui êtes dans ce domaine-là depuis fort longtemps, comment est-ce que vous arrivez à identifier quand une personne peut éprouver de la douleur ou peut-être même un animal, vu que c'était votre domaine d'intervention ?
Alors, ce qui est compliqué à présenter en peu de mots quand on parle de la douleur, c'est le fait que c'est un phénomène qui est à la fois multifactoriel, je vais dire pourquoi dans quelques instants, et en même temps qui revêt de nombreux aspects cliniques. Il n'y a pas une douleur, mais des douleurs. Et parler de sa douleur, ça c'est quelque chose que l'on peut faire parce que c'est son ressenti, parce que c'est sa personnalité qui est mise en cause par la douleur, mais parler de la douleur en général, c'est beaucoup plus complexe. Alors, ce que je voulais dire quand je parlais des différents aspects de la douleur, ben, la douleur, c'est déjà et c'est l'abord que nous scientifiques avons exploité une fonction sensorielle, puisque tout part de capteurs qui sont des capteurs de la douleur et qui vont générer une information nerveuse qui remonte jusqu'au cerveau qui est spécifique de la douleur. Mais aussi la douleur, c'est quelque chose qui va mettre en jeu toute notre personnalité parce que nous ne sommes pas égaux devant la douleur. Chacun vit sa douleur dans sa propre dimension. Pourquoi ? Bah parce que la douleur, c'est la conséquence aussi de notre histoire, de notre éducation. C'est aussi la conséquence de l'environnement dans lequel on vit, et c'est aussi la conséquence de notre mémoire. Il y a une mémoire de la douleur qui joue un rôle très important dans la manière dont on réagit face à la douleur, et de notre affectivité aussi. Donc voilà, tous ces aspects très complexes de la douleur, par son côté multifactoriel, rend difficile de le présenter en quelques mots. Et je dirais, pour terminer sur cet aspect, que c'est d'autant plus important qu'il existe des douleurs sans objet. Et par exemple, aujourd'hui, un syndrome dont on parle enfin et qui rentre dans le grand public, c'est la fibromyalgie. Et ben, c'est une douleur chronique, c'est-à-dire qu'elle affecte le quotidien des patients qui en souffrent, alors qu'on n'a aucune cause objective qui permet d'expliquer cette douleur. Donc voilà, il y a des douleurs sans objet et il y a aussi, pour prendre l'opposé, des patients qui ne ressentent pas du tout la douleur. Donc tout ça fait que la douleur n'est pas quelque chose très linéaire, très simple à aborder.
Alors, vous nous dites au tout début du livre que la douleur chronique dont vous venez de parler à l'instant est devenue un problème crucial dans le monde et, en dépit des progrès, demeure difficile à soulager et parfois résiste à tout traitement. Est-ce qu'on peut déjà un peu dire pourquoi ?
Oui, alors ça, on commence à mieux maintenant comprendre cette dichotomie entre ce que l'on appelle la douleur aiguë, c'est-à-dire la douleur que l'on ressent quand on se coupe, quand on se brûle ou quand on subit une intervention chirurgicale, la douleur post-opératoire. Cette douleur dite aiguë, on sait qu'elle est la conséquence de la lésion de structure du système nerveux, donc on revient à la dimension sensorielle de la douleur. Et la prise en charge de la douleur aiguë, maintenant, est quelque chose qui est complètement rentré dans le cursus médical. On n'a plus le droit aujourd'hui de souffrir d'une douleur post-opératoire, par exemple. On a tous les moyens de pouvoir la soulager. Donc ça, c'est un aspect qui est, bien évidemment, la douleur la plus fréquente et celle qu'on rencontre le plus couramment, mais qui est, pour moi et pour les spécialistes de la douleur, je dirais, quelque chose d'acquis. Là où les choses se compliquent, c'est le passage de la douleur aiguë à la douleur chronique. Alors, cliniquement, on considère qu'une douleur devient chronique quand elle se prolonge au-delà de 3 mois. Bon, c'est un seuil qui est purement arbitraire, mais qui explique en tout cas cette différenciation. Alors nous, chercheurs, nous avons montré que la douleur chronique n'est pas une douleur aiguë qui se prolonge dans le temps. Et ça, c'est un élément fondamental. Pourquoi ? Parce que quand la douleur devient chronique, les réseaux neurophysiologiques de la douleur sont complètement transformés et ils ne répondent plus au même langage, si je puis dire, neurophysiologique et neurochimique que la douleur aiguë. C'est ce que l'on appelle la neuroplasticité du système nerveux qui fait que quand la douleur devient chronique, le système nerveux change complètement de fonctionnement. Et cet aspect-là rend très compliqué l'approche de la douleur chronique. Si on prend l'exemple des douleurs neuropathiques, par exemple, périphériques, qui sont les plus simples à aborder, qui résultent de la lésion d'un nerf. Quand on se coupe un nerf, le territoire qui n'est plus innervé du fait de la coupure du nerf devient insensible au toucher et aux fonctions sensorielles du toucher simple, mais elles sont, et c'est là le paradoxe, le lieu de douleurs neuropathiques qui sont extrêmement délétères parce que c'est quelque chose qu'on subit tous les jours et dont on sait qu'elles dureront jusqu'à la mort parce qu'un nerf coupé ne repousse pas dans les conditions pathologiques que subissent ces patients. Et là, on est démunis pour pouvoir traiter ces patients parce que les médicaments que l'on a pour traiter la douleur aiguë, que ce soit le paracétamol, le tramadol ou la morphine, si on prend les 3 paliers, n'agissent plus ou très peu sur les douleurs chroniques à cause de cette neuroplasticité, à cause de ce changement de fonctionnement du système nerveux. Et là, les outils dont on dispose, ils sont actuellement, d'un point de vue pharmacologique, très peu nombreux. On sait que parmi les phénomènes qui interviennent dans cette neuroplasticité, les neurones de la douleur se mettent à déclencher une activité qu'on appelle de type épileptique. Et c'est pour ça que certains antiépileptiques sont utilisés dans le traitement des douleurs neuropathiques parce qu'elles agissent sur les mêmes cibles que les neurones qui sont épileptiques dans le cerveau. Bon, alors il faut faire ça, faut prendre des précautions quand on aborde cette question-là, parce que tous les antiépileptiques ne sont pas utilisés dans le domaine de la douleur, bien évidemment, mais ceux qui sont utilisés marchent malheureusement, en gros, disons, dans 50% des patients. Et puis l'autre famille de médicaments qu'on utilise, c'est une famille d'antidépresseurs qui sont qui ont été générés à l'origine pour traiter la dépression, mais qui sont aussi utilisés dans le traitement des douleurs chroniques parce qu'ils ont des propriétés qui permettent de stimuler les réseaux de neurones qui se sont affaiblis pour renforcer les systèmes de contrôle que nous avons dans notre cerveau et notre moelle épinière, des systèmes de contrôle de la douleur. Et en renforçant ces systèmes de contrôle de la douleur, on arrive à soulager certaines douleurs chroniques. Mais là, comme pour les antiépileptiques, ces antidépresseurs n'agissent qu'en gros sur un patient sur deux. Donc c'est très difficile de soulager pharmacologiquement la douleur chronique. C'est pour ça que maintenant, dans toutes les consultations des centres de la douleur, on prend en charge le patient dans sa globalité et que le médicament n'est qu'un des aspects possibles du soulagement de la douleur, que par exemple les consultations psychologiques jouent un rôle fondamental dans ces centres de la douleur, que les traitements non thérapeutiques, non pharmacologiques prennent une importance de plus en plus grande. Là, je fais référence par exemple à l'hypnose qui s'avère très importante dans la prise en charge de la douleur et en particulier pour les patients douloureux chroniques. Je reviens par exemple à la fibromyalgie dont on parlait tout à l'heure, où là, il y a vraiment une dimension globale où le pharmacologique est associé à une dimension psychologique, à l'hypnose et aussi beaucoup d'autres thérapies qui sont plus ou moins discutées, mais qui commencent à être prises en compte dans les centres de la douleur. Là, je fais référence à la sophrologie, à la relaxation. Alors, il y a aussi l'acupuncture, mais l'acupuncture est quelque chose qui est tellement loin de notre culture scientifique. Vouloir immerger l'acupuncture issue d'une science médicale chinoise vieille de 3000 ans, basée sur une philosophie qui n'est pas du tout la nôtre, rend extrêmement complexe son application dans une dimension de médecine occidentale. Et l'acupuncture, aujourd'hui, n'a pas encore de support scientifique qui puisse expliquer son efficacité quand elle existe. Et pour nous, occidentaux, les effets bénéfiques de l'acupuncture tiennent essentiellement de l'effet placebo. Alors, voilà, c'est là où on est dans une dimension extrêmement difficile pour le traitement des douleurs neuropathiques parce que je dirais qu'on est au balbutiement de la compréhension des mécanismes de la douleur chronique et que c'est quand on aura pu approfondir et élucider un peu plus les facteurs qui sont à l'origine de cette douleur chronique qu'on pourra bien évidemment aborder sa prise en charge avec plus de succès.
Et pourtant, vous nous dites aussi que ça fait seulement 20 ans que vous avez pu aborder certains procédés de cette sensation de la douleur grâce à l'imagerie cérébrale notamment. Oui. Donc ça a bien progressé.
Alors ça, c'est effectivement une voie de recherche qui est extrêmement importante avec l'imagerie médicale, en particulier ce qu'on appelle l'IRM, l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, qui permet de voir le fonctionnement du cerveau, le fonctionnement du cerveau en temps réel. Et là, grâce à cette technique, on peut effectivement envisager de mieux comprendre la complexité des structures du cerveau qui sont mises en jeu dans la douleur chronique, et en particulier une des grandes avancées qui a été permise grâce à cette imagerie médicale, c'est la description de ce qu'on appelle aujourd'hui la matrice de la douleur, c'est-à-dire l'ensemble des structures du cerveau qui sont mises en jeu dans la douleur et qui vont bien au-delà de ce que les neurophysiologistes avaient pu eux-mêmes mettre en évidence dans une démarche, je dirais, de neurophysiologie classique. Là, l'imagerie nous a ouvert des portes fantastiques, et là, c'est un élément qui peut être très important dans cette ouverture dont je parlais il y a quelques instants de la complexité de la douleur, parce que si on arrive à mieux orienter cette chaîne d'événements qui intervient dans la matrice de la douleur, on aura la possibilité d'intervenir beaucoup plus facilement là par des techniques. Et là, il y en a une qui est en train aujourd'hui de prendre aussi beaucoup d'importance, c'est ce qu'on appelle la stimulation magnétique transcrânienne qui est en place dans les hôpitaux maintenant, dans certains centres de la douleur, malheureusement pas assez nombreux, mais qui à l'origine a été développée dans le traitement de la dépression et qui maintenant commence à être abordée dans le traitement de la douleur chronique. Cette stimulation magnétique transcrânienne, elle présente à la fois l'intérêt de ne pas être invasive du tout, puisqu'on pose des bobines magnétiques sur les emplacements dirigés du cerveau, mais à l'extérieur du crâne. Et on sait maintenant que les champs magnétiques qui sont générés par cette bobine influent sur le fonctionnement des neurones. Et on suppose, mais là encore, c'est une hypothèse de travail, que ces champs magnétiques renforcent les contrôles inhibiteurs de la douleur. Donc voilà, c'est vrai que l'imagerie médicale a été un apport considérable et continue à l'être. Et en particulier dans les aspects les plus extrêmes, je dirais, des pathologies douloureuses, en particulier dans la douleur du membre fantôme. C'est là où on a fait le plus de progrès dans la compréhension de la douleur du membre fantôme grâce à l'imagerie médicale.
Vous évoquez aussi beaucoup, Bernard Calvino, dans votre livre « La douleur n'est pas une fatalité », la place de ces patients experts qui connaissent tellement bien leur maladie que finalement ils vous apportent aussi des informations précieuses pour aller plus loin.
Oui, alors ça, c'est aussi un aspect très récent, mais ô combien important, et qui est né et qui s'est développé grâce aux associations de patients. Et alors bon, les associations de patients, elles ont des aspects très positifs, celui dont je vais parler dans quelques instants. Ce sont aussi parfois des groupes de pression qui font du lobbying et qui peuvent avoir des effets extrêmement délétères. Bon, ceci étant, en France, il y a trois associations de patients, en tout cas celles qui travaillent en collaboration avec les chercheurs et les médecins de la douleur, et qui ont joué un rôle très important. Pourquoi ? Parce que, comme vous venez de le présenter, ils ont développé une culture de leur propre douleur, un savoir de leur propre douleur, et à partir de là, en essayant de transmettre cette culture et de la partager avec d'autres patients douloureux chroniques, de mettre en place des approches qui sont en particulier des groupes de parole, qui sont des partages d'expériences sur la prise en charge de la douleur de chacun. Et cette approche, elle est maintenant reconnue puisqu'il y a une formation à l'université Pierre et Marie Curie qui est une formation diplômante qui permet à ces groupes de patients de pouvoir former d'autres patients à cette approche.
Autre chose, Bernard Calvino, vous nous dites, notamment page 141 pour être précise, que la migraine touche 15% de la population mondiale et une forte proportion de patients subissent plusieurs crises par mois. Alors, quels sont, notamment pour cette maladie, pour cette douleur, quels sont les espoirs pour la science médicale quelles sont les possibilités pour lutter contre cette douleur particulièrement présente dans le monde ?
Alors, le problème de la migraine, c'est que c'est d'abord cliniquement un processus pathologique extrêmement hétérogène. On parle de migraine, on parle de céphalée, on parle d'algie de la face. Toutes ces pathologies, en fait, sont de nature très différente. Et la difficulté du traitement de ces pathologies vient du fait qu'on a peu de connaissances scientifiques sur leur origine. Et pour une raison très simple, c'est qu'on a très peu de modèles animaux de migraines céphalées qui sont le point de départ de toute recherche scientifique. Alors, il y a deux hypothèses qui, jusqu'à présent, se sont avérées très prolifiques pour le traitement d'un certain type de migraine, mais hélas, qui sont peu nombreuses. D'une part, c'est l'hypothèse qui porte sur l'inflammation des méninges, et d'où l'idée d'utiliser des molécules plus spécifiques sur le traitement de ces inflammations méningées et des réactions végétatives vasomotrices qui résultent de cette inflammation. Et là, ça a donné naissance à deux familles de molécules, une qui est déjà ancienne, qu'on appelle la famille des triptans, et qui marche très très bien, mais malheureusement, dans un certain type de migraine, ceux qui ont cette origine-là, et les triptans, on en connaît bien le fonctionnement, ils agissent sur une famille de neurotransmetteurs qui sont très spécifiques. Et puis l'autre solution qui se développe maintenant, mais encore à un stade d'essai clinique, c'est des anticorps contre une molécule qui s'appelle le CGRP, pardonnez-moi la complexité des termes, mais c'est le vocabulaire que les scientifiques utilisent. Et ce CGRP est effectivement une molécule qui intervient dans le déclenchement et l'amplification des crises migraineuses. Et l'idée a été de développer des anticorps contre ce CGRP pour en annihiler l'action. Et les essais cliniques qui se sont développés avec ces anticorps anti-CGRP sont assez prometteurs. Je pense que si cette hypothèse se confirme, on devrait avoir dans quelques années des médicaments de cette famille qui vont très certainement être commercialisés. Alors, ça, c'est encore une fois, je resterai prudent parce que c'est un certain type de migraine et qui ne couvre qu'une toute petite partie. Alors, certains patients qui ont des crises de migraine très, très violentes, avec des fréquences plus ou moins éloignées, répondent parfois au triptan. Et ça, c'est, quand c'est le cas, c'est fantastique parce que les triptans peuvent annihiler la crise. Mais, encore une fois, c'est qu'une petite minorité. Et d'autres crises, j'ai parlé des algies vasculaires de la face, qui sont liées aussi à des phénomènes de neurophysiologiques. Là, on a un abord neurochirurgical qui est, par exemple, très bien développé à l'hôpital Lariboisière par le professeur Alain Séry, qui consiste à faire une coagulation du noyau du trijumeau, qui est ce noyau qui est dans la face de la cinquième paire de nerfs crâniennes, ce noyau qui est un des relais essentiels dans la douleur de la face. Et avec une approche très, très spécifique, on peut arriver à cautériser, à brûler une toute petite partie du noyau, celle qui est justement le site de projection, le lieu de l'origine des projections vers les territoires douloureux. Et c'est aussi une technique qui maintenant est très bien codifiée et se fait sans trop de difficultés, permet d'améliorer ces patients. Il y a aussi l'alcoolisation, on injecte de l'alcool dans le trijumeau ou dans des ganglions qui permettent aussi, en détruisant ces origines de projection de territoires douloureux, de supprimer la douleur. Bon, mais tout ça, c'est des techniques qui sont déjà anciennes, qui marchent encore bien, mais qui, là encore, ne permettent de résoudre le problème qu'un petit nombre de patients.
Un autre constat que vous faites dans votre livre, Bernard Calvino, avec Odile Robert, « La douleur n'est pas une fatalité », vous insistez sur le fait que la communication avec l'entourage est difficile, et que pour faire face à cette situation, eh bien, vous êtes aussi un peu démuni, malgré tout l'entourage qu'on peut apporter à ces personnes.
Oui, tout à fait. Ça, c'est un problème majeur parce que un patient douloureux chronique est un patient qui, lorsqu'il n'arrive pas à soulager même partiellement sa douleur chronique, va devenir un patient dépressif et va s'enfermer dans sa douleur chronique, va s'enfermer dans ce syndrome douloureux qui va le rendre de plus en plus enfermé dans sa bulle. Et beaucoup de médecins de la douleur disent que le patient ne vit plus que pour sa douleur et par sa douleur. Ce qui fait que toute communication avec l'environnement devient de plus en plus difficile. C'est quelqu'un qui va devenir irritable, c'est quelqu'un qui va devenir retranché dans sa bulle et qui va avoir des relations de plus en plus difficiles avec son entourage, y compris familial. Et ces patients douloureux chroniques deviennent, hélas, de plus en plus des difficultés d'insertion sociale parce que souvent les situations sont tellement compliquées qu'elles peuvent amener à des séparations et à des divorces, elles peuvent amener à être un rejet par le monde du travail et à des licenciements. Donc, c'est vraiment quelque chose de très lié, douleur chronique, syndrome dépressif, rupture avec l'environnement, enfermement dans sa bulle, sont des processus qui sont assez liés, malheureusement.
Eh bien, merci Bernard Calvino pour ce livre « La douleur n'est pas une fatalité » qui est vraiment très pédagogique, surtout la première partie où vous racontez vraiment le mécanisme de la douleur, les circuits qui mènent de la sensation de la douleur jusqu'au cerveau. C'est vraiment un livre très précieux. Je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Au revoir.
Au revoir, merci beaucoup.